Vous écoutez
RMC.
RMC. On doit progresser, on doit tous monter d'un cran, monter le cursus quand tu as bien travaillé l'entraînement et monter le petit cursus pour être le meilleur possible.
Ça a été compliqué pour Strasbourg, même au niveau mental, parce qu'on a été en rouleau tout le match. Quoi.
Ils le payent deux fois coup sur coup, c'est malheureux de leur part, mais je pense que c'est la chance du dernier, ils n'ont pas trop de réussite.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
23h03, vous êtes sur RMC. On est dans l'after avec Elton Moncolo, avec Maxime Chanon. On vous lit sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424. On vous attend également au 32-16 sur RMC. On a parlé de Zidane qui a choisi son staff. Toutes les coulisses, vous pouvez les retrouver sur rmcsport.fr. Valentin Jamin et Arthur Perrault vous expliquent tout sur les 22 personnes qui constituent ce staff. Un staff qui n'est pas encore totalement terminé. On va parler de Paris. Paris qui a encore évidemment gagné hier. De toute façon, le PSG n'est jamais rassasié. C'est encore et encore comme la chanson de Francis Cabrel. J'avais envie de commencer sur la chanson de Francis Cabrel hier et puis finalement, ça ne s'est pas fait.
Tu m'en voudras pas si j'ai pas la ref.
Et ça continue encore et encore.
Non, désolé, ça c'est les rêves de Karine.
Non, je vais Shazam.
On est un peu plus jeune, Karine.
Non, mais arrêtez avec cette histoire de plus jeune, mon sang. Bien mais sûr. Tu connais Napoléon.
Je connais Napoléon, bah, je ne savais pas qui chantait Napoléon pour le coup.
Non, mais c'est incroyable cette histoire de plus jeune. Francis Cabrel, excuse-moi.
Ouais, excuse-nous, Cabrel, c'est pas
vous
forcément
devez le connaître.
Moi, je suis resté sur les yeux revolver, moi.
Ah oui, Marc Lavoine. Mais là, ça a marché moins pour hier.
Ça, c'est un jingle, ça, en plus.
Mais les yeux revolver, très belle chanson, en tout cas, le fait.
Non, est-ce que ce monde est sérieux? Je pense à ça.
Ça, c'est Francis Cabrel. Et ouais, toujours le même film qui passe, le PSG qui gagne et qui est jamais rassasié. Voilà. En tout cas, on va parler du PSG parce que le PSG a gagné donc sa deuxième finale de Supercoupe, 2-1 face à Aston Villa, c'était hier. Et il y a un homme, Unai Emery, ancien entraîneur du PSG, qui a parlé d'un homme, Guevara, favori du Ballon d'Or. On écoute ce que dit l'Espagnol.
Son impact avait été fantastique il y a deux ans à Naples et aujourd'hui au PSG. Il a encore inscrit un but exceptionnel. C'est un joueur qui n'était pas présent à la Coupe du Monde mais qui est en pleine forme et qui l'a encore démontré. Il a marqué un but comme il en a l'habitude. Nous avons essayé de l'en empêcher mais sa qualité et sa frappe sont vraiment exceptionnelles. Ce n'est pas à moi d'en décider mais je pense qu'il peut remporter le Ballon d'Or.
Le Géorgien qui a marqué le premier but, un but magnifique hier soir sur la pelouse de Salzbourg. 25 ans, les statistiques de Guevara l'an passé. 48 matchs avec le PSG, 19 buts, 11 passes décisives. Guevara, favori du Ballon d'Or. Est-ce que c'est réellement crédible, sachant que malheureusement pour lui, eh bien, il y a cette Coupe du Monde et la Géorgie n'y a pas participé.
Les absents ont surtout toujours tort. Alors si le Ballon d'Or était uniquement donné sur sa saison en club, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il a fait une très belle saison.
Max, je te coupe priorité au direct, le dernier saut de notre Française à la perche. On est avec vous, Aurélien Tirsain et Teddy Tamgo.
Elle est pour l'instant troisième du concours avec 4 m 70 passés. Elle a fait l'impasse à 75 et à 80. Teddy avec deux échecs. Là, c'est all-in, la vie ou la mort, l'or ou le bronze.
Alors là, ça va être assez intéressant de voir surtout ce qu'elle va produire. C'est-à-dire qu'elle réussit ou qu'elle rate. En fait, on va avoir des indications sur la suite de sa carrière.
Ah oui, parce que là, ce serait le record de France. Allez, c'est parti, la course d'élan de Marie-Julie Bonin, qui est en forme. La perche, elle est dure et elle est trop dure là, parce qu'elle nous a fait un petit roulé-boulet sur le tapis. On vous a dérangé pour rien, messieurs dames.
Une médaille
de bronze quand même.
Une autre médaille.
Première médaille internationale pour Marie-Julie Bonin. C'est la sixième pour l'équipe de France. Toujours aucune en or, malheureusement. Donc au tableau des médailles, on est assez loin. On applaudit, Teddy, tu as raison. Et à la placing table, on est quand même quatrième. Donc, il faut féliciter l'équipe de France. On saura probablement dans quelques minutes qui est la championne d'Europe. Angelika Moser, la Suissesse, ou Vilma Murto, la Finlandaise. On va peut-être pas vous déranger pour ça. En tout cas, médaille de bronze pour Marie-Julie Bonin, la sixième de l'équipe de France à Birmingham.
Merci beaucoup, messieurs. Aurélien Tirsain et Teddy Tamgo en direct de Birmingham. Il faut quand même que je dise à nos auditeurs et nos auditrices que pendant qu'on assistait à la tentative de Marie-Julie Bonin, qui finalement n'a même pas sauté, il y a quand même Elton qui nous a dit ça va le faire. T'as du nez, hein. T'as un truc avec le saut à la perche.
J'étais absolument convaincu. J'ai dit ça, elle va passer froidement.
Malheureusement, pas eu de saut. En tout cas, médaille de bronze, bravo à notre Française, une nouvelle médaille. On revient à Guevara, donc messieurs, par rapport au fait qu'il y ait cette Coupe du Monde qui tombe très mal pour Kvara, forcément.
Ah bah oui. Et c'est pour ça que je disais, c'est une année de Coupe du Monde. Si le Ballon d'Or était uniquement donné sur une saison en club, pourquoi pas? Je pense que Kvara, avec son palmarès, était en pole position, en tout cas, ou était bien placé pour pouvoir éventuellement prétendre à ce Ballon d'Or. Alors après, c'est toujours un petit peu la question que l'on se pose. Est-ce qu'on récompense le joueur sur les trophées gagnés, les trophées glanés? Dans ce cas-là, je pense qu'il y a un autre joueur qui est encore mieux placé que lui, il s'appelle Fabian Ruiz, qui le connaît très bien parce qu'ils jouent ensemble au Paris Saint-Germain.
Encore que Fabian Ruiz, il a très peu joué au final.
Il a très peu joué.
Oui, mais moins impactant que le PSG cette année.
Il a quand même gagné la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Monde, c'est quand même pas rien. Il me semble que c'était un peu le. J'allais le comparer avec Jorginho, mais pour le coup, lui avait gagné l'Euro et la Champions League avec Chelsea. Et pour autant, il n'avait pas gagné ce Ballon d'Or. Donc en fait, les trophées collectifs ne sont finalement pas forcément légitimes derrière pour pouvoir gagner un Ballon d'Or. Si on parle vraiment d'un point de vue strictement individuel, oui, certes, Kvara a fait une très belle saison, même si en Ligue 1, je reste un petit peu sur ma faim, mais bon, ça va mettre ça un petit peu sur le côté.
C'est insuffisant en Ligue 1,
mais si, oui, parce que c'est vrai que Kvara a tendance à choisir ses matchs, mais bon, au moins, il choisit les bons matchs. Il nous l'a montré hier encore en étant décisif. Ça, c'est une première chose. Si tu me parles d'un Ballon d'Or et que tu compares des statistiques, pour moi, il n'y en a qu'un, c'est Harry Kane. C'est 61 buts cette saison avec le Bayern Munich. Et surtout, c'est quelqu'un qui a réussi sa saison en club et sa Coupe du Monde, même si.
Bah oui, mais bon, il n'y a pas de titre majeur hormis la Bundesliga.
C'est pour ça qu'en fait, on se pose la question. Alors, si Kvara était vraiment. En pole position, évidemment, il n'y aurait pas de débat. Mais je pense qu'actuellement, le fait que Kvara et la Géorgie n'aient pas été en Coupe du Monde, c'est un gros frein, en tout cas, pour Kvara, pour prétendre potentiellement un Ballon d'Or à la fin de cette saison.
Donc, pour toi, par exemple, l'anglais Harry Kane est devant Kvara.
Bah, tu pourrais toujours te poser la question, qu'est-ce que tu privilégies? Et c'est la raison pour laquelle je parlais de Jorginho un peu plus tôt, que je parlais de Fabian Ruiz, là, sur cette année civile, ou est-ce que. Fabian Ruiz a absolument tout gagné. Je pense pas que Fabian Ruiz va finir dans le top 3 des Ballons d'Or. Donc c'est la même chose pour Kvara. Ça a été un très bon joueur sur la saison dernière. Il a été très très performant et notamment en Champions League, je le rappelle. Mais le fait de ne pas avoir joué la Coupe du Monde, je pense même pas qu'il finira dans le top 3 du Ballon d'Or.
Alors attends, là je comprends pas. C'est qui ton Ballon d'Or? Parce que c'est pas Fabian Ruiz, c'est pas Kvara, c'est pas
Harry Kane. Je vois un mec comme Yamal. Je vois un mec comme Ousmane Dembélé. Je vois même un mec comme Mbappé finir devant. On en reparlera, on verra, parce que malheureusement, et ça fait partie aussi un petit peu de la problématique du Ballon d'Or, on en parle tous les ans, c'est que les statistiques individuelles passent avant tout. Et aujourd'hui, certains te diront, ouais, Kvara, c'est pas un vrai numéro, enfin, c'est pas un numéro 9. Donc,
les stats, elles sont très bonnes quand même.
C'est pas exceptionnel par rapport à un Harry Kane qui joue un poste différent, je suis d'accord avec toi.
Kvara est pas numéro 9.
Mais c'est pour ça que je suis en train de te le dire, c'est ce que je suis en train d'expliquer. C'est-à-dire que le fait que ça soit pas un numéro 9, on ne peut pas demander à Kvara de marquer 60 buts sur une saison comme Harry Kane, certes. Mais la réalité, c'est que le Ballon d'Or, c'est beaucoup de statistiques, on l'a vu, et c'est pas forcément des trophées collectifs. Et malheureusement, quand tu regardes les stats de Kvara, même si cette année liée, en n'ayant marqué que 19 buts, en n'étant forcément pas le plus influent sur le jeu du Paris Saint-Germain, parce que la réalité aussi au Paris Saint-Germain, c'est qu'ils se partagent le travail. T'as finalement trois stars devant, avec Désiré Doué, avec Ousmane Dembélé et Kvara. Donc je pense que ça joue pas en sa faveur. Et je terminerai sur le fait, encore une fois, et je réitère mon analyse, le fait que Kvara n'ait pas joué la Coupe du Monde, pour moi, ça sera vraiment problématique pour le voir finir dans le top 3 des Ballons d'Or.
C'est un outsider de choix, Kvara Shea, parce que le fait d'avoir été nommé meilleur joueur de la compétition, la Ligue des Champions, le fait d'avoir même une propagande extérieure avec un coach adverse comme Unai Emery qui décidément en doit en avoir marre de croiser la route de Kvara Shea, entre le quart de finale aller de Ligue des Champions 2025 et cette super coupe d'Europe avec à chaque fois des superbes buts de Kvara Shea, donc forcément ça peut l'aider. Mais c'est vrai qu'il part d'un peu plus loin à partir du moment où il n'a pas été présent avec la Géorgie. Mais le fait d'avoir été érigé, entre guillemets, de manière symbolique, comme le leader d'attaque du PSG, ce n'est pas rien. Quand on sait qu'on a Ousmane Dembélé qui a quand même marqué en quart, en demi, en finale de Ligue des Champions, ça ne l'a pas empêché d'être nommé meilleur joueur de la compétition. Donc aujourd'hui, moi, je considère comme un outsider dans une épreuve, enfin, dans une année 2026 où le Ballon d'Or va être très, très, très indécis jusqu'au bout. Parce qu'autant en 2025, il était d'avis de donner Ousmane Dembélé parce que le PSG avait tout gagné, autant là, par rapport à la variable Coupe du Monde et le back-to-back PSG, ça va être un peu plus indécis.
On accueille JB, supporter parisien au 32-16 sur RMC. Bonsoir JB.
Bonsoir à toutes et à tous.
Salut JB.
JB. JB, on parlait de Kvara parce qu'il a été nommé par Unai Emery hier soir, donc l'entraîneur adverse, après avoir été battu lors de cette finale de la Supercoupe. Pour toi, est-ce que Kvara fait partie des favoris pour le Ballon d'Or ou pas?
Alors bon, si je dois remettre dans le contexte que moi je suis pas un grand grand fan des récompenses individuelles dans le foot, notamment du Ballon d'Or, parce que je trouve que ça représente pas grand chose. Oui, s'il doit y avoir un Parisien qui, pour moi, doit l'avoir cette année, si on doit choisir parmi nos joueurs qui ont fait une très très belle saison cette année, Kvara est pour moi le joueur parisien qui sort du lot. Maintenant, je vous apprends rien quand je vous dis que Kvara, il est malheureusement pas à la Coupe du Monde.
Évidemment.
Qu'il est géorgien et que dans qu'une année de Coupe du Monde, bah, bien souvent, ça récompense un joueur qui gagne la Coupe du Monde.
Oui, enfin après, il y a aussi l'exemple, évidemment, on s'en souvient tous, Luka Modric, finaliste de la Coupe du Monde, mais qu'il n'avait pas gagné.
Voilà, c'est ça. Remonter plus loin, Cristiano Ronaldo, 2014.
Aussi.
Non, mais Luka Modric, il a joué dans une équipe de Croatie avec le nombre d'habitants. On va pas refaire l'histoire de la Croatie.
Non, mais finaliste, c'était un très beau parcours. Bien
c'est exceptionnel, ouais, même. Avec Varane, il n'a même pas été à la Coupe du Monde. On ne peut pas comparer.
On peut remonter au scandale de Cannavaro avec la victoire de 17.
Bah pourquoi un scandale, enfin, pourquoi ils ont gagné?
Bah, il a gagné, il a été super.
Ouais, l'eau. Ouais, enfin,
il a été extraordinaire.
Ouais, enfin, sur la Coupe du Monde, mais sur la saison, voilà. Pas extraordinaire.
Oui, d'accord. Alors, mais il a gagné la Coupe du Monde en tant que capitaine.
Voilà. Donc bon, toujours est-il que pour revenir à ce sujet, bon ben maintenant, Kvara, bien évidemment, est un postulant au Ballon d'Or. Je pense que s'il y en a un, par contre, qui gagne tout. Bah, c'est Fabien Ruiz, et Fabien Ruiz, bah, c'est un milieu de terrain qui ne marque pas forcément des buts, mais si lui, il a gagné avec le PSG, il a gagné la Coupe du Monde. Bon, aujourd'hui, oui, Kvara fait partie des postulants, mais Fabien Ruiz, pour moi aussi, fait partie des postulants.
Non, mais je suis au Ballon d'Or. Que Kvara finisse haut dans le classement du Ballon d'Or, certes, ça c'est je pense que c'est presque une certitude. Après, Fabien Ruiz, on en a parlé un peu plus tôt. On a pris la comparaison avec Jorginho en 2020.
Jorginho, il est sur le podium. Hein.
Oui, mais en tout cas, il ne l'a pas gagné. C'est ce que je suis en train de te dire. Donc, je ne pense pas que Fabien Ruiz, en tout cas, gagnera ce Ballon d'Or. C'est encore trop tôt. Tu ne sais pas ce qui peut se passer en un ou deux mois. Mais clairement, quand tu regardes un petit peu les stats individuelles d'Harry Kane, le Ballon d'Or, il est déjà joué. Harry Kane, il va le gagner.
Non,
Yamal sera deuxième. Écoute, regarde, je te le dis.
Il va être indécis jusqu'au bout.
Mais indécis sur quoi? Tu le sais déjà, ce qui va se passer. Tu penses que Kvara va gagner le Ballon d'Or, vraiment?
Non, aujourd'hui, il y a à boire et à manger pour beaucoup de candidats, que ce soit Harry Kane, que ce soit Kvara, que ce soit Dembélé, que ce soit Yamal, que ce soit Mbappé, aujourd'hui, bien
malin. Tu peux me donner ton top 3, tiens, ça m'intéresse, comme ça, allez. Est-ce qu'on peut juste enregistrer ce que va dire Elton?
Alors moi, je te le dis, c'est vrai que mine de rien, c'est pas facile, hein. Mine de rien,
je vais te donner le mien, regarde. Moi, je pense qu'Harry Kane va finir premier, Yamal, Dembélé, voilà.
Tu veux que je te dise une tech?
Sera au pied du podium.
Tu veux que je te dise une tech? Harry Kane n'est même pas dans le top 3.
Ah ouais, ok.
Il n'est même pas dans le top 3. Je te donne, allez, en 1, Yamal, en 2, Dembélé, en 3, Mbappé.
Donc tu mets pas Kvara sur le podium. Allez, c'est bon, moi on est d'accord.
Ah non, mais moi
après,
pour le coup.
Qu'il joue vraiment en la défaveur de Mbappé, c'est qu'il a absolument rien gagné.
Pour le coup, j'ai été cohérent en disant le fait de ne pas être à la Coupe du Monde, ça va jouer contre lui.
Et donc Mbappé, tu le mets sur le podium alors qu'il a rien gagné.
Rien gagné.
Donc c'est sa Coupe du Monde vraiment très bonne.
Bah, il a été meilleur buteur de Liga, meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur buteur de Coupe du Monde. À un moment donné, il y a une récurrence. Notamment sur les
individuels, c'est tout, bien sûr, c'est 42 buts qu'il a Mbappé cette saison, c'est une superbe Coupe du Monde avec l'équipe de France, malheureusement une quatrième place, mais bon, ça joue, Kvara est énorme en Ligue des Champions.
Et il est recommandé.
Attendez, on écoute JB, messieurs. JB, oui.
Quels sont les critères là, pour Yamal, Ballon d'Or, parce que j'ai regardé un peu de foot cette année, vous m'avez l'air de me dire que Yamal, il a fait une énorme saison, que ce soit en club ou en
dans la mesure où Yamal, pour des accessites moins évidents, enfin moins conséquents, l'année dernière, il avait terminé à deuxième place. Ce qu'il a gagné cette année, c'est un peu plus conséquent, avec notamment une Coupe du Monde.
Il a été blessé cette année.
Ouais, mais il a été nommé meilleur joueur de la Liga. Il finit sur le sprint final. Il a marqué 16 buts, meilleur passeur de la Liga. Il a fait une bonne Ligue des Champions. Il a été champion du monde. Et encore une fois, c'est des meilleurs titres que l'année dernière.
Et puis, c'est toujours devant Kvara. C'est-à-dire qu'il est à 24 buts par rapport à Kvara. Donc, c'est 5 buts supplémentaires. Certes, là, il y a cet échec en Ligue des Champions. Certes, il y a aussi ses performances en demi-teinte à la Coupe du Monde. Mais il faut pas oublier qu'il est très jeune. Et puis surtout, voilà, qu'il a gagné cette Coupe du Monde, qu'il a gagné la Liga. Donc, il a le palmarès. Et donc je le répète encore une fois, je le vois pas gagner, mais je le vois, oui, je le vois second, moi, Yamal. Mais on en reparlera, Elton. C'est intéressant ce que tu as dit. Notez bien, je pense que Kane va gagner.
Ça va être très indécis, la pondération, ça va jouer de très peu.
JB, oui.
Et Messi, vous croyez pas qu'il soit capable pour.
Je t'aurais dit oui s'il avait gagné la Coupe du Monde.
Ah ouais,
mais en tout cas, il sera dans le top 10. Ça, c'est une certitude. Il sera toujours là.
Ouais.
C'est une certitude. Avec Rodri, avec Olise, avec Haaland, avec Fabien Ruiz.
C'est pour ça que ce Ballon d'Or, ça reste quand même quelque chose. Excusez-moi, c'est quand même C'est un folklore qui est quand même. Vous voyez, même on n'est pas tous d'accord pour savoir.
Justement, c'est le ballon d'or, c'est quelque chose de subjectif.
C'est le folklore, comme tu le dis, mais on est toujours en désaccord, mais tout le monde le regarde.
Bah oui, c'est ça.
Il est toujours très attendu.
Non,
donc.
Non, t'en parles.
T'es intervenu.
Merci beaucoup, JB, d'avoir été avec nous.
JB, bonne saison
au 32-16 sur RMC. Belle saison à toi. Merci beaucoup. Dans quelques instants, messieurs, toutes les informations mercato, on l'a dit, donc Ferran Torres et le PSG, ça brûle. Il y a un accord de principe qui a été trouvé. Et vous saurez tout également sur le mercato et notamment à Monaco. Il y a des choses importantes à vous dire. L'adversaire en Conférence League, Minamino et Salisu qui sont de retour après leur grave blessure d'ici un mois. L'avenir de Paul Pogba également. Et puis, les soucis de Gianni Infantino qui continuent. On est ensemble en direct sur RMC. Jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h20, vous êtes sur RMC, on est en direct jusqu'à minuit, l'afterfoot avec Maxime Chano, avec Elton Mokolo. Mais si on a parlé du PSG, on va continuer parce qu'un accord de principe a été trouvé entre le PSG et le Barça pour Ferran Torres. On parle donc de 50 millions d'euros, contrat de 5 ans. Il a attendu rapidement en France. On rappelle qu'il était absent de la reprise avec le Barça, donc ça se précise vraiment. Très bonne chose, on en avait déjà parlé de ce mariage entre l'Espagnol et le PSG et aussi avec évidemment la philosophie Luis Enrique.
C'est une vraie belle signature du PSG qui recrute Ferran Torres, qui sort de sa meilleure saison statistique, qui a mis le but le plus important de sa carrière avec cette finale de Coupe du Monde et qui arrive dans les meilleures années de sa carrière, pour moi à 26 ans, avec l'entraîneur qui l'a lancé pour moi dans le foot de très haut niveau avec la sélection espagnole. Donc c'est pour ça que par rapport à cette idée d'avoir un joueur qui soit davantage entre guillemets une alternative beaucoup plus qu'un titulaire au PSG, mais un joueur qui va pousser, qui va mettre de la pression parce qu'il sort d'une saison en tant que titulaire au Barça, c'est un vrai bon coup pour moins de 50 millions d'euros. Donc très bien pour le PSG, très bien pour Ferran Torres.
Ouais, je suis entièrement d'accord aussi avec Elton. Je pense que c'est un très bon coup de la part de Luis Campos et du Paris Saint-Germain d'arriver à récupérer Ferran Torres. Alors après, tu pourras te poser la question, lui qui a été performant à Valence et qui a été reperformant à Barcelone et avec l'équipe d'Espagne, quant à son adaptation sur un championnat étranger, parce qu'à Manchester City on a vu que ça avait été un peu difficile. Est-ce qu'il n'a pas un plafond de verre?
Il avait 20-21 ans.
Il était plus jeune, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'a pas un plafond de verre sur les championnats étrangers, sur les très très grands clubs? Alors Barcelone est un très grand club, mais en tout cas sur une adaptation sur un club étranger avec une façon de jouer qui est différente, je ne sais pas. L'avenir nous dira si oui ou non ça a été un bon choix, mais c'est vrai qu'on parlait un petit peu plus tôt de Ketelaere ou de Ferran Torres. Clairement, je m'étais positionné sur Ferran Torres. Je trouve que c'est un super profil qui peut aussi arriver dans un contexte de ne pas être titulaire indiscutable. On le sait qu'il va avoir un turnover avec tous les matchs du Paris Saint-Germain entre les Coupes Nationales, entre la Ligue 1, entre la Champions League. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir un joueur qui est en mesure aussi de pouvoir ne pas forcément prétendre à une place de titulaire indiscutable et aussi de sa polyvalence, parce qu'on sait qu'il peut aussi un peu jouer sur les côtés.
Beaucoup plus dans l'axe aujourd'hui, c'est sa réalité.
Mais s'il est recruté, ça sera évidemment pour jouer dans l'axe. Donc c'est un très bon coup de la part du Paris Saint-Germain, en effet.
Mais aujourd'hui, il a une double réalité, Ferran Torres, parce qu'il a été globalement titulaire sur la dernière saison au Barça, mais il faut qu'il arrive à s'enlever cette étiquette de joueur numéro 12, que ce soit au Barça entre guillemets, mais aussi avec la sélection espagnole. Est-ce qu'il arrivera à le faire du côté du PSG, dans la mesure où on a quand même un ballon d'or en titre, Ousmane Dembélé, on a Kvaratskhelia, on a Désiré Doué, mais toujours est-il que pour moi c'est encore une fois une vraie belle signature.
Avec une telle signature, un champion du monde, un buteur en finale.
Et c'est un coup marketing aussi, tu fais bien de le dire, par rapport au fait que c'est le buteur de la dernière finale de Coupe du Monde.
Tout à fait, l'unique buteur de cette finale. Est-ce que aussi ça va dans cette quête de faire ce triplé historique pour le PSG? Il y a eu le back-to-back, maintenant on est déjà tourné vers une troisième Ligue des Champions de suite. On a l'impression que cet été, en tout cas, le PSG va un petit peu plus amener de sang frais par rapport à l'an passé où c'était la même chose.
T'as laissé partir Gonçalo Ramos, je suis persuadé que t'as recruté un meilleur joueur, un joueur plus expérimenté par rapport notamment à tout ce qu'il vient de vivre, que ce soit au Barça, que ce soit avec la sélection espagnole, qui a un CV qui commence à être imposant en termes de palmarès, et il fit avec la stratégie du PSG qui est de recruter les meilleurs joueurs pour avoir la meilleure équipe possible pour gagner la Ligue des Champions, pour faire le triplé.
Ouais, et puis il est très compatible, Luis Enrique, donc c'est vrai que pour l'adaptation dans la manière de jouer du Paris Saint-Germain, je pense que ça risque d'être beaucoup plus facile que prendre un joueur qui ne connaît pas forcément Luis Enrique. Attention par contre à Gonzalo Ramos, tu sais ce que tu perds, tu sais plus ou moins ce que tu récupères aussi, mais quant à son adaptation sur les matchs de Ligue des Champions, ça aussi je l'ai dit un peu plus plutôt le plafond de verre de Ferran Torres sur les gros matchs, à voir ce que ça va donner. Mais Gonzalo Ramos, n'oublions pas que même si c'est vrai qu'il n'était pas du tout compatible avec le schéma et l'animation offensive de Luis Enrique, c'était un attaquant qui avait aussi digéré son rôle de joker, de luxe, et qui faisait pas forcément de bruit dans un vestiaire. Donc ça aussi, c'est une bonne chose. C'est un attaquant, ne l'oublions pas, qui a fait gagner le Paris Saint-Germain, je pense à la Super Coupe d'Europe l'année dernière contre Tottenham, ou le Trophée des Champions contre l'Olympique de Marseille. Donc voilà, c'est vrai que Gonzalo Ramos, il était finalement rentré dans ce moule de super sub, il l'avait accepté. La Ferran Torres, il arrive avec un statut, il est champion du monde, c'est lui l'unique buteur de la finale. Il faudrait pas que ça vienne foutre un petit peu le bordel, excuse-moi du terme, dans le vestiaire parisien, parce que jusqu'à maintenant, on a le sentiment que le savoir-vivre ensemble était quand même pas mal du côté de Paris. Et donc voilà.
Non, mais t'as raison d'insister là-dessus, parce que là, on a vu la tournée médiatique de Ferran Torres. Sa vie, son statut a changé dans la planète football. Donc lui, il arrive pas en se disant, je vais être qu'un remplaçant. Et pour moi, c'est sa marge de progression, Karine, parce que ça va peut-être te faire plaisir, mais c'est un affectif. Donc il peut être touché notamment par ses séries sans marquer sur plusieurs matchs. On l'a vu au Barça, où il a certes marqué 16 buts en Liga, mais il a passé 3 mois sans marquer. Au PSG, s'il fait 3 mois sans marquer, il pourrait être critiqué, ça peut l'impacter.
Ah, tu sens mon petit cœur qui bat et tu es inquiet, c'est ça?
Exactement.
En tout cas, sur le débat précédent du Ballon d'Or, il y a beaucoup de réactions sur le WhatsApp RMC. Joe nous dit, faut être sérieux aujourd'hui, c'est Mbappé Ballon d'Or, meilleur buteur de toutes les compétitions.
Bah tu vois, ils sont pas tous
d'accord. Idir qui nous dit, un Kane, deux Yamal, trois Messi, quatre Rodri, cinq Mbappé. C'est la cote des bookmakers. Pascal qui nous dit, salut la team, n'oubliez surtout pas Léo Messi, finaliste de la Coupe du Monde. Idir nous dit également, Dembélé, pas top 5, je lance le pari face à Elton.
Tu vois, Maxime, qu'est-ce que je t'avais dit? On est sur le Ballon d'Or le plus indécis depuis plusieurs années.
Je suis d'accord
avec toi. Christophe nous dit, Yamal, ce serait un énorme scandale s'il venait à gagner le Ballon d'Or.
Eh non, ce serait pas un énorme scandale.
Bah écoute... C'est l'avis, en tout cas, donc de Christophe. Et on va accueillir Tépéré également, supporter parisien bien connu d'RMC. Il est avec nous au 32-16 ce soir. Bonsoir Tépéré.
Bonsoir, comment ça va?
Bonsoir.
Ben nous, ça va très bien et toi?
Ben ça va. Hein,
tu passes un bel été.
La chaleur, hein.
Ah oui, la chaleur, c'est terrible. Ah mais toi, tu vis où? Je vois à Toulouse, c'est ça?
C'est ça, c'est ça.
Il fait très très chaud également dans le sud-ouest.
Oh là là, j'ai jamais vécu ça.
Nous aussi, on souffre à Paris, c'est horrible. C'est compliqué. Tépéré, tu voulais parler de Ferran Torres. Pour toi, c'est le mariage parfait.
Mais bien entendu, c'était le joueur que je voulais voir au PSG. C'est un joueur qui est Luis Enrique compatible. Il peut jouer à droite, à gauche, dans l'axe. Et vous avez oublié une donnée. C'est que humainement, les deux se connaissent. Parce que Ferran Torres était en couple avec la fille de Luis Enrique.
Non, mais
Pas les gossips, mais on a dit qu'ils se connaissaient.
Non, mais Tépéré, je l'ai dit, c'est l'entraîneur qui, pour moi, l'a lancé au très haut niveau. Alors oui, il a été formé à Valence, il a été lancé, mais il y a une vie de Ferran Torres avant et après Luis Enrique.
Mais alors, attends, juste, excuse-moi, parce que bon, les gossips, ça nous intéresse pas, mais ça peut avoir un sens. T'as dit quoi? T'as dit que le fils de Ferran Torres,
Ferran Torres était en couple avec la fille de Luis Enrique.
Ouais, donc, j'espère qu'ils ont gardé des bons contacts.
Donc, s'il veut au PSG, que bien entendu, humainement, ils se connaissent, il sait là où il veut l'amener.
Non, mais tu sais que parfois, quand c'est ton ancien beau-père ou ton ancienne belle-mère, il faut être parti en bon terme. Je ne connais pas l'histoire, mais voilà, il faut être sûr que tu vas bien.
Cédric, si il y aurait eu de mauvais rapports, il ne l'aurait jamais accepté au Paris Saint-Germain.
Eh bien, écoute, très bien. Moi, je n'étais pas au courant.
Hein, ah, tu n'étais pas au courant de ça?
De la vie privée de Ferran Torres? Non, franchement, non. Je ne connais pas sa vie, je m'en fous.
La calinothérapie dans le football de haut niveau, ça compte beaucoup.
Évidemment.
Donc il va retrouver un petit peu une famille.
Ce sont des données qu'il faut prendre en considération.
Non, mais il va surtout retrouver, encore une fois, sur cette nature, un entraîneur qui a parié très très jeune sur lui. Je fais Ferran Torres, à 19 ans, il était titulaire dans l'attaque espagnole, dans une époque de reconstruction. À 20 ans, il était en demi-finale d'Euro face à l'Italie. Tout ça, c'est parce que Luis Enrique, il avait dans cette idée que Ferran Torres pouvait être un joueur très important pour l'Espagne. Il a été d'une certaine manière visionnaire, puisque 6 ans plus tard, il met un but très important en finale de Coupe du Monde. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a une grande considération de Luis Enrique envers Ferran Torres.
Mais c'est pour ça, il peut faire une saison à 15 buts.
Hein. Il les fera, bien sûr, tous les jours en Ligue 1, il les fera. avec le turnover qui est imposé par justement le calendrier du Paris Saint-Germain, bien évidemment, qui va aller mettre les 15
points. Encore une fois, il sort de la meilleure saison statistique de sa carrière.
Bien sûr. Après, c'est juste le statut avec lequel il va arriver, parce que derrière, il y a trois imbougeables, et notamment Dembélé à son poste. Donc, il va falloir qu'il accepte.
Trois imbougeables, lui, je pense qu'il est là. Il va essayer de gratter des opportunités.
Moi, j'ai l'impression que Dembélé va arriver. L'état son prime Dembélé, je ne sais pas ce que
attention, non, mais il va commencer à jouer en janvier comme toutes les saisons.
Mais tu vois, c'est par exemple, la gestion d'Ousmane Dembélé, elle peut être très intéressante, parce que le fait d'avoir un Ferran Torres qui justement a pour moi la capacité d'être un titulaire au PSG, eh ben ça peut te permettre d'avoir un Dembélé qui soit beaucoup plus préservé, notamment pour les échéances de fin de saison.
Mais bien entendu. Et après, pour revenir au débat tout à l'heure, Ballon d'Or. La logique, c'est que
Gvara. Tu veux nous refaire tous les débats, Tépéré, vas-y. Bien
entendu. Pour la logique, je donne à Gvara, mais pour la symbolique, je donne à Lionel Messi.
Et quelle symbolique ? Ah
bon, quelle symbolique, ouais.
Pour la Coupe du Monde qu'il fait.
Elle a été extraordinaire,
c'est vrai. Non, mais alors, parce qu'il a été extraordinaire, mais pas pour le symbole. C'est soit il le mérite, soit il ne le mérite pas.
Mais pour la symbolique, il mérite, vous avez la Coupe du Monde qu'il fait ?
Non, mais. D'accord, mais le principe de symbolique, c'est on dirait que c'est pour l'ensemble de sa carrière. Non, c'est tu pars du principe qu'il a fait une immense Coupe du Monde et tout le monde sera d'accord là-dessus. Et donc la Coupe du Monde, ça écrase tout et on lui donne à Lionel Messi. Mais c'est pas, toi, c'est pas un cadeau de consolation.
Mais l'aura qu'il a eu avec la sélection, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais vu ça. Il n'y a aucun autre joueur qui a une telle aura dans.
Non, mais il a fait une très belle Coupe du Monde. On est d'accord avec toi. Il a emmené l'Argentine sur.
C'est une claque incroyable.
Il a emmené l'Argentine sur ses petites épaules. Ses grandes épaules.
Il lui a manqué la dernière marche, mais pour le reste, il a fait une superbe Coupe du Monde.
Il a montré à quel point c'était le leader incontesté et incontestable de cette équipe d'Argentine. Mais soyons sérieux, un joueur qui joue à l'Inter Miami, qui joue en marchant en MLS, ne peut pas prétendre à gagner un ballon d'or. Il sera là dans le top 5, mais clairement.
Je suis juste honnête,
non, mais pas tous en même temps. Que dis-tu, Tépéré?
Il nous a fait oublier qu'il joue à MLS.
Ça, complètement, c'est vrai.
Donc pour la symbolique, moi je pense, en plus sachant que c'est les journalistes qui vont voter, moi je pense qu'il y en a plein qui vont voter pour Lionel Messi. Tout simplement. Parce qu'il nous a, le mec, il a mis tout le monde d'accord.
Bon, on prend les paris, alors on verra.
Eh bien, on suivra ça en tout cas. Mais c'est vrai qu'il nous a bluffé. Il a été étincelant pendant cette Coupe du Monde. Et puis son âge aussi, 39 ans, évidemment. Il avait absolument pas l'attitude d'un homme de 39 ans sur le terrain. On avait l'impression qu'il avait rajeuni de 10 ans. Merci beaucoup, Tépéré, d'avoir été avec nous. 32-16.
Merci à vous, une
excellente soirée. Salut.
Salut, Tépéré, bonne saison.
On est sur RMC jusqu'à minuit. On se retrouve dans quelques instants. On va continuer de parler de toutes les informations foot et venez avec nous au 32-16 pour commenter l'actualité du jour. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Karine Galli. 23h33, vous êtes sur RMC avec Elton Moncolo, avec Maxime Chanot. On est ensemble jusqu'à minuit en direct. On va parler dans quelques minutes également d'Aguerre. Vous le savez, il était en partance parce que tout le monde est à vendre du côté de l'Olympique de Marseille. Il devait s'engager à la Real Sociedad. Il y a une visite médicale qui a été faite. Il y a un accord qui a été trouvé. Bah, patatras, selon Foot Mercato, finalement, il n'y aurait pas de prêt de la part du Marocain direction l'Espagne. On va en parler dans quelques minutes, mais on était également au niveau du PSG. Le PSG qui a continué à engranger les trophées, c'était le cas hier. On rappelle, premier trophée de la saison avec cette super coupe, gagné 2-1 face à Aston Villa. Un deuxième trophée à aller chercher, ça sera dimanche sur la pelouse de Lens pour le trophée des champions. Et le PSG, selon Elton, est prêt à tout regagner. C'est son avis tranché.
Nico, moi j'aime bien Cendrillon et tout, elle a retrouvé son carrosse, ok c'est très bien, mais à un moment donné...
Sa chaussure.
Le PSG qui a encore faim.
Le PSG a encore faim, c'est ce qui le définit pour moi, parce que quand on parle de cette équipe, à chaque fois, à mesure où on s'avance dans les saisons qui s'enchaînent et que le PSG continue de remporter les trophées, on se pose la question de la motivation, beaucoup plus que la question notamment de la qualité footballistique. Et moi, je le dis très souvent, le PSG ne se définit pas par rapport à ses accomplissements, mais plutôt par rapport à ses objectifs. Et moi, ce qui m'a rassuré, c'est encore une fois la conférence de presse, ou plutôt les conférences de presse très offensives de Luis Enrique. sur le rapport à l'histoire du football, sur cette idée d'égaler le Real Madrid. Parce que le PSG, depuis janvier 2025, et le trophée des champions, je crois que c'est 10 trophées qui ont été remportés, série en cours, potentiellement un 11e trophée dimanche. Manière de dire que voilà, il n'y a pas de fatigue à avoir, quand bien même il y a les contraintes qui sont très très imposantes. Je veux dire, l'été dernier, il a été question de la Coupe du Monde des clubs qui a impacté la préparation. Encore aujourd'hui, ou plutôt encore avant-hier, par rapport à la réalité de la Super Coupe d'Europe, il y a eu seulement 2 jours de préparation et les joueurs parisiens l'ont quand même bien mentionné, mais ça ne t'a pas empêché de battre Aston Villa qui avait quand même 4 semaines de préparation, même si Aston Villa n'a pas forcément forcé, c'est vrai, sur la seconde période. Mais c'est pour ça que moi je me dis que le PSG, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est sa capacité justement à se challenger sur le plan mental, beaucoup plus que sa qualité footballistique, parce que ça, on le sait, il y a des joueurs qui sont extraordinaires, il y a un coach qui est extraordinaire, mais c'est beaucoup plus sur le challenge mental, sur la motivation qu'ils vont afficher tout au long de l'année, parce que ils vont être, maintenant c'est la cible, maintenant c'est l'ogre que tout le monde veut abattre, et aujourd'hui ça ne fait pas peur au PSG, ça ne fait pas peur d'assumer ce statut, de combattre, et il y a des objectifs qui vont être très intéressants. Dans un premier temps, il y a cette super coupe, enfin il y a ce trophée des champions dimanche, il y a aussi le retour en Ligue des Champions, et pour la première fois, c'est quand même fou de se dire ça, taper un top 8 pour pouvoir avoir le meilleur classement possible avant d'arriver sur un sprint final où j'écoutais aussi, j'avais lu Safounov qui expliquait qu'après la Coupe de France, il se disait que plus jamais il veut revivre ce sentiment d'être éliminé en Coupe de France, manière de dire qu'ils veulent tout gagner. Et pour moi, ce sont de très bons indicateurs pour évaluer la motivation du PSG qui, à l'orée de la saison 2026-2026, sera jamais autant challengé, mais ils sont prêts pour ce défi et pour aller le 5 juin à Madrid en tentant de remporter cette troisième Ligue des Champions de suite.
Oui, là où je te rejoins, c'est par rapport à la motivation des Parisiens et notamment celle de Luis Enrique. On en a parlé rapidement hier avec Daniel. Tu sais, il y a toujours ce phénomène quand tu gagnes des titres où tu as tendance, et c'est très humain d'ailleurs, et c'est naturel, de lever un peu le pied, de faire un peu moins les efforts et puis de prendre un peu les choses pour acquis. Et tu l'as dit, un Aston Villa qui avait 4 semaines de préparation supplémentaire par rapport au Paris Saint-Germain, on a le sentiment que c'était presque les Parisiens qui étaient plus prêts physiquement.
Ils finissent mieux.
Et en fait, c'est une histoire aussi de mentalité. Et j'ai envie de donner du crédit à Luis Enrique qui, depuis son arrivée, notamment, a quand même transmis un petit peu cette rage de vaincre. Et c'est ce qui manquait aux Parisiens, hein, parce qu'il ne faut pas l'oublier, hein, les Parisiens qui roulaient sur la Ligue 1, mais il y avait toujours ces échecs en Champions League. Et Luis Enrique arrive avec ça, avec sa rage de vaincre. Et quand bien même tu sens que certains joueurs sont à bout, Luis Enrique, il le prend, voilà, il le comprend très vite, il l'anticipe, il fait partir des joueurs, il fait revenir du sang frais. On parle de Ferran Torres notamment, et c'est ça que j'aime beaucoup chez l'entraîneur espagnol. Donc je suis d'accord avec Elton par rapport à ça. On a vu un Paris Saint-Germain qui avait encore faim hier malgré toutes les victoires depuis X années. Il ne faut pas oublier que ce genre de match, Super Coupe d'Europe, mais c'est pas facile à pouvoir y participer, parce qu'on sait très bien que le Paris Saint-Germain va toujours se qualifier en Ligue des Champions. Donc pour pouvoir participer à ce genre de finale, il faut gagner la Ligue des Champions. C'est tellement difficile à le faire, même si c'est vrai que le Paris Saint-Germain finalement banalise le fait de gagner la Ligue des Champions en gagnant 2 d'affilée. Donc voilà par rapport à ça. Alors après, il y a quand même des axes d'amélioration. Je suis d'accord avec toi que le Paris Saint-Germain est ultra favori au départ de cette saison. Il reste malgré tout des axes d'amélioration. Je pense au gardien de but. Alors Safonov m'a fait mentir hier parce que c'est vrai qu'il a été bon. Mais je sais pas, j'ai toujours ce petit truc avec Safonov
où il
me fait, non, il me fait dire que je suis pas vraiment rassuré. Je suis pas vraiment rassuré. C'est vrai qu'avec Safonov, le Paris Saint-Germain gagne, mais c'est vrai que c'est très très rare que je sorte d'un match du Paris Saint-Germain en me disant, ah ouais, ce gardien-là, c'est énorme, c'est solide et c'est costaud derrière. Je sais pas, je peux pas te le dire. Alors peut-être parce que justement, tu l'as dit, il est fantasque, il a tendance à pas capter les ballons, son jeu au pied est quand même assez limité. Et je parlais des axes d'amélioration du Paris Saint-Germain, et donc c'est la raison pour laquelle j'avais parlé du poste du gardien de but, parce qu'avec un Luis Enrique qui aime repartir de derrière et avoir un gardien qui est quand même à l'aise au pied, c'est vrai que c'est pas forcément le cas du gardien russe. On parlera aussi peut-être du cas de Marquinhos, quid de Marquinhos. Tous les ans on pense qu'il va moins jouer et puis finalement on se rend compte qu'il n'y a pas meilleur que lui actuellement. C'est aussi parce que le Paris Saint-Germain n'a pas encore recruté à son poste. Je pense que si le Paris Saint-Germain veut continuer à asseoir sa suprématie en Europe, va falloir qu'il vraiment il travaille sur ces deux postes-là, ces postes clés. On parle peut-être de l'arrivée de Suzuki, le gardien de Parme, international japonais, pour challenger Safonov. C'est une première chose.
Je pense sincèrement. être reprêté dans la foulée à la Juventus.
D'accord, en tout cas sur le moyen terme.
Plus sur... aussi évident.
D'accord.
Ouais. Donc quoi, le prêt ou l'arrivée prêt, ouais.
Bon, en tout cas, Luis Campos et Luis Enrique ont dû m'écouter, entre guillemets, parce qu'ils s'intéressent à ce poste, enfin en tout cas à une doublure
même
de
si
Saponov.
Moi, personnellement, je ne comprends pas la gestion des gardiens
de Chevalier, notamment. Je suis d'accord avec toi. Je laisserai un peu plus de temps à Chevalier pour pouvoir s'adapter. Mais bon, ça encore, on ne sait pas ce qui se passe avec l'ex-international français, devrais-je dire.
Il reste international français, dis donc.
International français.
Pas sélectionné pour la Coupe du Monde. Et puis, évidemment, on parlait du poste de défenseur central. Pour l'instant, il n'y a aucune piste. Donc, c'est peut-être pas d'actualité pour les dirigeants parisiens. Enfin, quoi qu'il en soit, quand tu regardes un petit peu cette qualité de l'effectif, cette qualité intrinsèque, t'as encore hier un Zaïre Emery qui a fait un match exceptionnel alors qu'il était arrivé seulement depuis 2 jours à l'entraînement. C'est la même chose avec Désiré Doué. Alors, certains te diront qu'ils sont jeunes, qu'ils peuvent jouer. C'est vrai. Il y a aussi une histoire de motivation. Ils sont pas encore rassasiés parce que, justement, ils sont au début de leur carrière. Même si c'est vrai qu'on a tendance à oublier parce qu'ils sont tellement là depuis longtemps, on a le sentiment que c'est presque des vétérans, des seniors, mais c'est des jeunes joueurs. C'est aussi la raison pour laquelle je pense qu'ils ont encore la dalle, entre guillemets. Mais voilà, ce que j'ai vu hier du Paris Saint-Germain m'a plu. Je rejoins ton analyse, Elton. C'est un Paris Saint-Germain, en tout cas, qui a soif d'aller chercher la troisième, même si on sait que c'est toujours plus difficile de confirmer. Donc on verra ce que nous réserve Luis Enrique.
Plus que de confirmer, de faire l'histoire. Parce que là, il parle notamment avec des équipes qui sont légendaires. On a fait référence au Real Madrid de Zinedine Zidane, l'Ajax de Cruyff, le Bayern aussi de Beckenbauer. Tout ça, et le Real Madrid de Di Stefano, tout ça, on parle d'équipes qui sont extraordinaires. Voilà la prochaine mission du PSG. Mais c'est une mission qui ne fait pas peur parce que l'objectif de Luis Enrique, il l'a assumé, c'est de faire l'histoire. Hier, Luis Enrique, on en a très peu parlé, c'est devenu le troisième entraîneur le plus titré en Europe à égalité avec Sir Alex Ferguson. Ce qui n'est pas rien. Et ça, c'est pas quelque chose qui lui fait peur de faire l'histoire. Donc c'est pour ça qu'ils sont habités par cette mentalité-là pour aller le plus loin possible, en sachant qu'il y aura des étapes et il y aura surtout cette idée de progresser au quotidien. Parce que pour moi, le PSG, c'est pas une photographie, c'est quelque chose qui bouge énormément parce qu'ils ont besoin de progresser pour se sentir meilleurs.
On rappelle donc que le PSG a gagné la deuxième Supercoupe de son histoire de suite. L'an dernier, face à Tottenham au tir au but. Et hier, c'était face à Aston Villa, 2-1. Le PSG qui se régale avec les clubs anglais, notamment.
C'est leur petit. Hein.
C'est, ouais, c'est son petit plat préféré, tu vois. Moi, ouais, c'est les lasagnes ou le gratin dauphinois de ma maman. Ah ouais. Eux, c'est les clubs anglais.
Ah, d'accord, je pensais que c'était les Smash Burgers, ce que tu m'as montré à New York, non?
Aussi, j'adore les Smash Burgers. Mais en. Je
vais pas vous dévoiler les coulisses.
Il n'y a aucun problème. Mais en cuisine fait maison, tu vois.
D'accord, ok, très bien.
Les lasagnes de maman et le gratin dauphinois de maman, il n'y a rien de mieux.
On va dire que le PSG aime bien prendre l'Eurostar.
Très bien.
Bah oui.
Mais ils aiment bien les recevoir, ouais, aussi. Ça va dans les deux sens. Ouais. En tout cas, le PSG est en réussite, notamment face au club anglais. Messieurs, on continue avec les informations du jour et on va parler maintenant de Monaco. Vous le savez, Paul Pogba et l'AS Monaco, ça devrait s'arrêter. 115 minutes seulement jouées pour le milieu de terrain de 33 ans la saison passée. Depuis, c'est reblessé lors des matchs amicaux, des matchs de préparation. L'idée, c'est d'arrêter. Voilà, le fiasco est total entre Paul Pogba et l'AS Monaco, et donc on parle de Major League Soccer, de MLS ou d'Arabie Saoudite pour Paul Pogba. La priorité vraiment pour Monaco, c'est d'arrêter.
Oui, parce que ça ne va nulle part pour les deux parties, que ce soit pour Paul Pogba, parce que je pense davantage à lui, parce que je sais à quel point il a essayé de revenir, mais le corps ne suit pas, et si le corps ne suit pas, c'est très compliqué. Et pour Monaco, parce que la vérité de la saison 2025-2026, où tu avais la Ligue des Champions, et tu pouvais permettre à Paul Pogba de monter en puissance, c'est pas la même que la saison 2026-2027, où là, t'es en Ligue Conférence, où tu sais que t'es encadré par la DNCG, donc tu sais que tu as intérêt justement économiquement à lisser les salaires. Paul Pogba présente un salaire qui est quand même imposant, donc tu devais arrêter les frais pour justement aller de l'avant.
Ouais, moi je suis très déçu pour notre ami Pogba. Alors je l'avais annoncé très très rapidement lorsqu'il avait signé à Monaco
que ça serait
un flop. Alors pour quelle raison? Parce que le football a évolué et la manière dont l'intensité a évolué sur les matchs sur les 3-4 dernières années, je voyais mal Paul Pogba réussir à catch-up ça. Moi, je l'avais vu à Miami dans une forme remarquable. Il était fit, mais bon, il avait quand même pris beaucoup de muscles. Et c'est vrai que dans un football qui va de plus en plus vite, je voyais mal Paul Pogba, aussi qualitatif soit-il. Hein. Techniquement, c'est un superbe joueur. On se rappelle tous du Paul Pogba de 2018 ou celui de la Juventus qui nous a fait rêver. Mais il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Ligue 1 va trop vite. Ne parlons même pas de l'Europe. Et un Paul Pogba à 32-33 ans qui n'avait pas joué à cause de sa suspension. Mais n'oublions pas que des années avant, il avait aussi peu joué. Ça fait 3-4 ans qu'il avait finalement pas enchaîné des matchs. Et ben, le résultat est tel quel. C'est-à-dire qu'il a joué quoi, 5 ou 6 matchs avec Monaco. Je crois que c'est à peine
115 minutes.
Ouais, donc tu vois, c'est quand même pas énorme. Et puis voilà, c'est triste. C'est une réalité. Alors maintenant, je me pose la question, quand t'es un club de foot, qui va se positionner sur un Pogba qui a fait 25 rechutes en un an?
Ah, bah oui, parce que on a parlé
de Major League Soccer, on a parlé d'Arabie Saoudite, je suis mal placé pour en parler, mais Major League Soccer, on connaît un petit peu les statuts des contrats. C'est-à-dire que Pogba va arriver avec un statut de joueur désigné, avec un gros salaire. On sait que c'est limité en Major League Soccer, c'est-à-dire qu'ils n'ont droit qu'à 3 joueurs par club pour pouvoir aller récupérer ce genre de joueur. Je vois mal un club américain aller mettre 3, 4, 5 millions de salaire sur un joueur qui va jouer quoi, 3 ou 4 matchs dans la saison, même si le rythme de la MLS est bien évidemment moins élevé que la Ligue 1. Voilà. Ou alors il y a toujours cette option Fenerbahçe, tiens, en Turquie, puisqu'il récupère tous les vieux joueurs. Je me suis fait tomber dessus hier, mais la réalité, non, mais j'avais dit que c'était le cimetière de l'Europe. Excusez-moi, messieurs les Turcs, que j'aime beaucoup le championnat turc, il y a des très très bonnes équipes, Beşiktaş, Galatasaray, mais c'est vrai que quand tu regardes si tu prends Lukaku, Skriniar, eh ben, enchaîne avec Pogba, au moins t'auras une.
Non, mais enfin, Lukaku, je vous rappelle, il a fait une saison blanche, mais sa Coupe MLS du Monde a été All-Star. Bonne. Il a marqué des buts avec la Belgique.
Qui termine à faire un match, au moins il sera à sa place.
Tu es trop dur. Continuons de parler de Monaco, parce que Philippe et Louis a parlé de deux joueurs. Alors, est-ce qu'on peut les considérer finalement comme recrues? Parce qu'on rappelle que l'an dernier, franchement, Monaco n'a pas été verni. Minamino s'était fait une très grave blessure, ligament croisé antérieur du genou gauche, c'était en décembre. Puis,
l'entraînement, ouais.
Quelques jours après, c'était Salisu, début janvier, qui était également gravement blessé. Donc, on se retrouve avec deux joueurs qui vont revenir dans l'effectif. Retour à la compétition espéré le mois prochain, que ce soit le japonais ou le ghanéen. Par rapport aux difficultés de Monaco, est-ce qu'on peut voir ça un petit peu comme des recrues?
J'irai pas jusque là parce que faut qu'ils retrouvent l'intégralité de leurs conditions physiques sur toute une saison, et donc moi j'ai pas envie de leur mettre beaucoup plus de pression que ça en disant que dès le mois de septembre ils vont être des joueurs compétitifs, ils vont être des joueurs importants pour l'AS Monaco, que ce soit pour Minamino, que ce soit pour Salisu. Je pense que c'était une manière entre guillemets de les impliquer dans le projet de la saison 2026-2027. Et Philippe Luis, qui a été un grand joueur, il n'est pas dupe, il va leur falloir énormément de temps avant d'être compétitif. Si tu veux, si ils sont déjà compétitifs au bout de 6 mois, ça sera vraiment très très bien. Ça veut dire que dans les temps de passage, ils seront en avance.
Pour le japonais, une année de contrat. Pour le défenseur ghanéen, il reste 2 ans de contrat. Voilà pour les informations de Monaco. Monaco qui connaît également son adversaire en barrage de Conference League. Ça sera jeudi prochain, à suivre évidemment sur RMC. L'ASM ira en Pologne pour affronter Górnik Zabrze, je sais pas vraiment comment on prononce. C'est le vice-champion du pays.
C'est quand même une surprise. J'aurais pensé que Ferencváros allait faire le boulot, et donc tu as déplacé en Pologne. Mais
un club polonais.
Et il va falloir être sérieux et faire le boulot.
Qui est le propriétaire de ce club polonais?
Luka Podolski.
Ah, il sait tout. Eldon Bokolo, c'est magnifique.
Je vais me balancer tout de suite avec Maxime Tillette. On en a parlé il y a une dizaine de jours.
Ah ben voilà.
T'étais encore en vacances.
Tout à fait. Mais j'ai lu la petite brève de Maxime Tillette qui nous a annoncé l'adversaire de Monaco et ce club qu'on va avoir grand plaisir à nommer la semaine prochaine. J'espère qu'ils ont un surnom là, parce que sinon ça va être une galère. Donc on va trouver le surnom de ce club polonais.
Je vais juste te dire que c'est le club de Podolski.
Voilà. Ça sera juste ça, le club de Podolski, ça sera très bien. Dans quelques instants, la suite des infos Mercato, on est ensemble jusqu'à minuit, on est ensemble jusqu'à minuit, donc ça fait quelques minutes, encore une dizaine de minutes avec vous. On est évidemment en direct, à tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli. 23h49 sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit, encore quelques minutes avec Maxime Chano, avec Eldon Mokolo, avec vous sur le WhatsApp RMC 06 12 424 424, pour le club qui va affronter Monaco la semaine prochaine. Eh bien, nous avons un surnom, ça tombe très bien, les mineurs. Voilà. Ce sont les Lensois polonais.
Les mineurs, d'accord. Voilà. Ok.
On rappelle que ce club appartient à Lucas Podolski et que jeudi prochain, on suivra ce barrage de Conference League, évidemment, sur RMC. Messieurs, j'en ai parlé il y a quelques secondes, une réaction. Vous savez que Marseille vend tous ses bijoux de famille, ils n'ont plus d'argent après le fiasco de la saison passée. Il y avait un accord entre Naïef Aguerd et la Real Sociedad. Ça avait l'air d'être bon. Il devait y avoir un prêt dans le club espagnol. Il y a eu une visite médicale. Tout était ficelé et finalement, eh bien, retournement de situation, a priori le Marocain, selon Foot Mercato, n'irait pas dans le club de San Sebastian. C'est quand même une mauvaise nouvelle pour l'OM. L'OM doit vendre, absolument.
Bah pour l'OM, ça intervient après le revirement de situation d'Hoiberg il y a quelques jours.
Avec Newcastle.
Et là, c'est deux opérations qui font mal aux caisses olympiennes parce que c'était un enjeu très important de libérer des salaires pour pouvoir avancer, notamment dans la restructuration salariale dans un premier temps et surtout pour avancer par rapport à des potentiels recrues sur la dernière semaine. Et là, t'as fait ni l'un ni l'autre, ce qui pose question parce que dans une dizaine de jours, c'est Strasbourg en Ligue 1. Et donc forcément, c'est une mauvaise opération.
Alors, selon Foot Mercato, Aguerd aurait rétro-pédalé après une discussion avec le coach.
De la Real Sociedad ou de Marseille ?
Non, de la Real Sociedad.
D'accord. Ouais, sachant que il faut rappeler qu'Aguerd, il a joué, il était prêté par West Ham à la Sociedad avant d'arriver à l'Olympique de Marseille.
Lors de la saison 2024-2025.
Exactement.
Ouais, il fait demi-finale de Copa. Ouais.
Mais non, je suis. Ça te prouve aussi à quel point les mecs sont bien à l'OM, finalement. À Marseille, ils veulent pas partir, parce qu'on parlait de Newcastle pour Hojbjerg. On parle quand même d'un bon club pour Aguerd. Longoria, il leur a donné des assurances vie. Les mecs, ils veulent pas partir. Mais tu m'étonnes, à 500 bâtons par mois, je comprends qu'Hojbjerg veut rester et qu'Aguerd peut-être fait un rétro-pédalage. Alors, est-ce que la visite médicale a été passée? Parce que ça sent un petit peu.
Je viens de voir du côté, notamment, information
ça
du côté
sent un
des
petit
Basques,
peu la visite médicale
du
qui
côté
a été loupée.
Des Basques, ils sont formels. Il a pas réussi la visite médicale.
Ouais, ça peut sentir ça un petit peu le charbon pour Aguerd qui a, on le rappelle, quand même vécu une saison très très difficile du côté de l'Olympique de Marseille, notamment avec les blessures. C'est dommage parce que son début d'aventure avec Marseille était plus qu'intéressant. Je l'avais trouvé très très bon et notamment sur les premiers matchs de Champions League, je trouvais qu'il vraiment il inculquait un petit peu une culture défensive intéressante du côté de Zerbi, en tout cas des hommes de Zerbi. Et je pensais sincèrement que c'était un bon coup de la part de Longoria d'avoir pu le récupérer, même si pour moi il l'avait récupéré assez cher à 23 millions d'euros pour un joueur de presque 30 ans, me semble-t-il.
30 ans.
C'est ça, ouais. Je trouvais que c'était un peu cher, mais bon, écoute, c'est aussi la réalité du football moderne.
Ça se transforme en fiasco.
Mais il y a une réalité, c'est qu'Aguerd, c'est un joueur qui est fragile. Il l'a montré dans son passé, notamment avec pas mal de blessures. Et malheureusement, c'est vrai que l'Olympique de Marseille est en train de payer les pots cassés sur le choix de Longoria d'avoir ramené le Marocain du côté de la Canebière.
C'est parce que Longoria, c'est les trois qui sont fautifs.
C'est Longoria, c'est Benatia,
c'est Deserbi. Tu peux aussi t'interroger sur le recrutement de ce joueur, parce que déjà la Real Sociedad à l'époque, eux, ils avaient fait un prêt qui n'avait pas levé, mais là ça pose la question parce que c'est une très mauvaise publicité pour Aguerd et surtout pour l'Olympique de Marseille, parce que là un joueur, parce que là ça commence à sortir, qui n'arrive pas à réussir la première partie de sa visite médicale, ça pose question. Ça pose question et de manière très négative.
Bon, on attend d'avoir confirmation, effectivement, des raisons de ce rétro-pédalage. Vous saurez évidemment tout ça sur rmcsport.fr. Mais si on va parler du Barça, ton club que tu aimes tant, Elton, les Blaugrana, il paraît.
Ça peut m'arriver.
Les Blaugrana penseraient à Mikko Tadze. On rappelle évidemment, l'ancien Lyonnais vient de jouer une saison à Villarreal, une saison réussie, 44 matchs avec 16 buts et 6 passes décisives. Alors par contre, le montant me paraît un petit peu fou quand même. Entre 60 et 70 millions, c'est quand même très cher, non ?
C'est très cher, mais c'est la valeur d'un attaquant aujourd'hui en 2026.
Voilà.
Pourquoi je dis ça ?
Est cher. Hein.
Ah oui, tout est cher, mais parce que en fait, faut expliquer que Villarreal est un club qui est très bien géré, qui a pas forcément beaucoup vendu parce qu'ils ont fait leur devoir et que ils sont au courant que le Barça cherche un attaquant, un neuf à tout prix à partir du moment où 1. Lewandowski est parti, 2. Ferran Torres est en partance. Et ils sont dans le même championnat. Donc Villarreal ne va pas vendre au rabais. Et ils savent très bien que Mikko Tadze, qui est encore un jeune attaquant,
il 25 prendre... ans, donc il est très jeune effectivement.
Il peut prendre de la valeur. Donc aujourd'hui ils sont totalement dans leur droit. Mais le Barça, oui, par rapport au cas Julian Alvarez qui n'arrive pas à se résoudre, eh ben, il commence à explorer d'autres alternatives.
Ça te plaît cette idée?
Oui, ça me plaît. Oui, ça me plaît, même si encore une fois la marche elle est encore trop haute pour Mikko Tadze. Mais c'est normal parce que c'est un attaquant qui vient de découvrir la Liga, il a seulement un an, et là le Barça, on parlerait d'un truc qui serait extraordinaire pour lui, mais c'est vrai qu'il serait pas encore prêt.
En tout cas, la bascule Ligue 1 Liga, elle s'est bien passée.
Oui, bah pour lui, oui, oui,
oui, c'est vrai que
je pense
qu'il a réussi à Villarreal.
Et puis surtout qu'il a un parcours un petit peu atypique, hein, en repartant du côté de Metz, en étant prêté en Belgique, se retrouver à Barcelone. Comme quoi, dans le foot, tout est possible. C'est un très bon joueur.
Il y a deux ans, il était carré par l'Ajax Amsterdam.
Exactement, c'est ça. Ouais, ouais, c'est un très bon joueur. Moi, j'ai joué contre lui en équipe nationale et j'ai pris un carton rouge de sa faute sur les barrages.
C'est-à-dire de sa faute. C'était que t'as essayé de l'arrêter, quoi.
Ouais, juste plus vite que moi. Attends, j'avais un collègue à côté de moi qui savait pas dégager les ballons.
Pour avoir le rouge.
Bah écoute, j'ai mon collègue à ma gauche qui a pas compris que dégager le ballon, mais c'est un peu la problématique de jouer avec certains luxembourgeois, et dégager le ballon le plus loin possible. Il a dégagé le ballon sur ma tête et derrière Mika Tadze qui part seul au but, et sur un élan de folie, voilà, je l'ai attaqué par derrière.
Tu t'es dit, je vais le rattraper.
Voilà, c'est vrai. Bah attention, hein, la faute elle est pour moi, mais
donc carton rouge totalement mérité.
Carton rouge mérité. Mais alors le plus fou dans cette histoire, c'est que l'arbitre laisse jouer. Écoute, hein, donc on perdait 1-0, c'était les barrages pour la qualification sur le dernier Euro. Willy Sagnol était le sélectionneur et Kvara était capitaine, ou en tout cas il était là, peu importe, la Géorgie avait mis la grosse équipe, et à la suite de cette action l'arbitre ne siffle pas, on marque un but, on va célébrer le 1-1, et finalement VAR, ils annulent le but, ils reviennent sur la faute et ils me donnent carton rouge, donc on passe de 1-1 à 11 contre 11 à 1-0 et en infériorité numérique. Voilà, c'était l'un de mes derniers matchs en équipe nationale.
Le scénario,
tu es
en train de dire Mico Tadze, il a causé la fin.
Bah écoute, il est en partie responsable, c'est tout, il allait juste trop vite pour moi.
Et Mico Tadze au Barça.
Oui, oui, pour parler un peu plus sérieusement. Oui, je trouve que c'est une bonne idée, dans la mesure où, de toute façon, Elton l'a bien résumé. Tu perds Ferran Torres, t'as du mal à récupérer Alvarez. Bah écoute, il faut un numéro 9. Et Mico Tadze, il a été performant parce que je regarde, il a marqué 13 buts en 32 matchs de Liga dans une équipe de Villarreal qui a bien fonctionné. Donc j'imagine que avec Barcelone, ça risque d'être un atout supplémentaire, en tout cas pour les Blaugrana. C'est oui, ça peut être une belle recrue. Après, à voir à quel prix, c'est encore autre chose. Mais puisqu'aujourd'hui tous les transferts sont très très chers, voilà, c'est mais ça peut être un bon mix entre Mico Tadze et Barcelone, en effet.
Le Barça aussi qui serait prêt à un départ de Jules Koundé. Avant, c'était un joueur intransférable. Et bien là, ça pourrait être une option. On rappelle qu'il est très jeune encore, 27 ans, qu'il est sous contrat jusqu'en 2030. Mais en tout cas, il n'aurait plus le statut de joueur intransférable, le latéral français. Est-ce que toi, tu te dis que l'histoire est peut-être arrivée au bout entre l'ancien Girondin et le Barça, ou non, tu comptes toujours sur lui? On rappelle que l'an dernier, il a été en difficulté, le français.
Non, il faut toujours compter sur un Jules Koundé. Il a admis l'année dernière, ça a été une mauvaise saison. Mais il est encore sous contrat jusqu'en 2028.
Jusqu'en 2030?
2030?
Bah écoute, moi j'ai mal travaillé mon émission, mais j'ai vu 2030.
Ah non, 2030, ouais, t'as sûrement raison, jusqu'en 2030. Et on est sur un marché qui est extrêmement compliqué, celui des latéraux. Et moi je me dis que pour peu qu'il soit.
Raison.
Ouais,
2030.
J'ai dû confondre avec un autre joueur.
Parce qu'il a prolongé.
Ouais, il a prolongé. Et pour peu que, voilà, il puisse se relancer. Moi je n'oublie pas que dans sa saison compliquée, il a aussi réalisé une bonne Coupe du Monde.
Ah
ça
bon
aussi. Ah oui, il a réalisé.
C'est pas vrai,
si, si, si.
Ouais. Bonne Coupe du Monde. Jules Koundé. Alors qu'il soit monté en puissance, ok.
Donc voilà, on est d'accord.
Ouais, mais dans sa globalité, non, c'était justement, on parlait des postes derrière latéraux en équipe de France.
Elle
est correcte, mais quand t'es titulaire au FC Barcelone et que t'es en équipe de France dans une équipe qui normalement roule sur tout le monde sur une Coupe du Monde avec les trois quarts des équipes qui méritaient pas d'être à la Coupe du Monde, t'es censé, quand tu t'appelles Jules Koundé, à être dominant dans ton secteur, ça n'a pas été le cas. Il est ni dominant avec le ballon, ni dominant quand il s'agit de défendre.
Une Coupe du Monde 6 sur 10. On est d'accord.
Ah oui, bah alors si c'est une bonne Coupe du Monde, d'accord. Quand je ramenais des 11 sur 20 en SVT, j'étais très bon à l'école.
Alors peut-être que je suis trop gentil, notamment par rapport aux 6 sur 10, mais moi je dis que voilà, sa Coupe du Monde me laisse dire que voilà, le Jules Koundé qu'on va impérativement sortir du Barça, c'est pas encore le cas.
Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'il faut pas être trop sévère avec lui. Des saisons en demi-teinte, ça existe dans une carrière de footballeur. Il est encore très jeune, il a 27 ans, il a encore 3 ou 4 ans d'années de contrat. Voilà, je pense que pour lui, le mieux serait de rester à Barcelone, dans un club qu'il connaît bien, et garder justement une structure qui lui permette de se remettre la tête à l'endroit et de retrouver le vrai Jules Koundé, celui qu'on a connu il y a 2 ou 3 ans.
On a appris également que la Supercoupe d'Espagne ne se jouerait pas en Arabie Saoudite cette année, mais se jouerait en Turquie. Ça change.
À Istanbul, ouais.
Voilà, exactement.
Au cimetière.
Non,
ville sublime, d'ailleurs.
Ouais, très belle ville. Voilà.
Connaissez pas, je vous invite à aller en vacances à Istanbul.
Très belle équipe, très grand fan. Hein. J'aime beaucoup.
2 au 7 février 2027, donc il y aura les 4 équipes les quatre meilleures équipes de Liga qui seront donc présentes pour la Super Coupe d'Espagne. La Fédération espagnole l'a annoncé aujourd'hui. Merci beaucoup messieurs d'avoir été à mes côtés. Merci, merci à Sam, merci à Polo qui était aux manettes de l'émission. Demain, on se retrouve à 23h après la deuxième journée de Ligue 2. Belle nuit à tous sur RMC.
Salut à tous.
RMC, l'After Foot.